Ravachol, deuxième partie, les assassinats de la Loire. Montbrison, 20 juin 1892.
Tu vois cette main, disait Ravachol à un compagnon de ses amis, elle a fait autant de victimes qu'elle a de doigts.
5 assassinats ont été relevés en effet à la charge du misérable. L'assassinat de l'ermite de Chambles, le double assassinat des dames Marcon, le double assassinat de la Varizelle, ne mentionnons que pour mémoire, à côté de cette quintuple incrimination capitale, la violation de la sépulture de la baronne de Rochetaillée et un vol qualifié suivi d'incendie. Tels sont les chefs d'accusation auxquels Ravachol aura à répondre demain mardi devant la cour d'assises de la Loire. L'assassinat de l'ermite de Chambles, frère Jacques Brunel, date du mois de juin 1891. Il y aurait une silhouette bien curieuse à esquisser de ce vieillard nonagénaire, vivant solitaire au milieu des montagnes du Forez, moitié religieux et moitié mendiant, vendant des objets de piété et psalmodiant sur les routes, un des derniers survivants de cette race d'ermites que M. Ferdinand Fabre a dépeint de façon si pittoresque dans Barnabé. Le jour où Ravachol s'engagea dans les gorges de la Loire pour sa sinistre expédition, le curé de Chambles, abbé Viole, rencontra, assis sur un roc et tournant le dos au chemin, un voyageur qui mordait à belles dents dans un saucisson.
« Prenez garde, mon ami, lui dit l'excellent curé, vous êtes assis auprès d'un nid de vipères. »«
Oh !» fit l'homme indifférent en rabattant son chapeau sur ses yeux et en assurant de larges lunettes qui lui cachaient le visage. Et il tourna la tête d'un autre côté.
« Voilà un touriste qui n'aime pas les prêtres, » fit le curé de Chambles en s'éloignant.
Ravachol, car c'était lui, n'aimait pas les prêtres, en effet. Il n'aimait pas surtout à se voir dévisagé. Un instant après le passage du curé de Chambles, il se lève, contourne le village, donne une menue pièce de monnaie au petit pâtre qui lui indique le chemin de l'ermitage et continue son ascension. Frère Brunel reposait sur un grand rabat-grabat. Avant qu'il ait eu le temps de faire un mouvement, l'assassin le saisit à la gorge, lui comprimait la bouche pour étouffer ses cris, et bientôt n'a plus entre les mains qu'un cadavre. Dans une vieille marmite, dans des peaux ébréchées, dans des chaussures éculées, l'ermite thésauriseur a amassé le produit de 50 ans de quête, des sous, de l'or, jusqu'à des centimes. Ravachol choisit les louis dans le tas et gagne le village où il se fait servir un dîner copieux. Le surlendemain, obéissant à cette loi fatale qui veut que le criminel retourne explorer le lieu du crime, il reprend le chemin de Saint-Étienne à Chambles, se fait conduire jusqu'au pied de la colline de Notre-Dame-de-Grâce, que domine l'ermitage, et tandis que sa maîtresse attend à quelque distance avec un cocher, il revient contempler le cadavre, remplit une valise de gros sous dédaignés l'avant-veille, et rentre à Saint-Étienne en répondant aux employés de l'octroi qui l'interrogent sur le contenu de la valise. « Oh, c'est rien, c'est de la vieille ferraille. » Cependant, le crime est découvert. On arrête un aubergiste qui a beaucoup de peine à prouver son innocence. Mais le cocher qui a conduit à Notre-Dame-de-Grâce le couple inconnu désigne l'homme à la valise, à la justice, et donne son signalement. On met la main sur Ravachol, que son petit guide de l'avant-veille va reconnaître formellement, mais l'audacieux coquin ne restera que peu d'instants entre les mains de la police. Il s'évade pendant qu'on le conduit à la prison, et il demeura introuvable jusqu'au jour où le jeune Léraud le reconnaîtra et le livrera à la justice, à la suite des explosions du boulevard Saint-Germain et de la rue de Clichy. Et pourtant, pendant ces derniers mois de liberté, l'assassin n'était pas resté inactif. 6 semaines après l'évasion de Ravachol, un double crime était commis à Saint-Étienne, rue de Roanne, dans des conditions d'audace inouïes. À l'angle de cette rue et de la rue Saint-Honoré, deux femmes, Madame Marcon, exploitant un grand magasin de quincaillerie, et Maniaque, intraitable sur le prix des marchandises, elles n'avaient que peu de clients. Très riches propriétaires de l'immeuble dont elles occupaient le rez-de-chaussée, elles n'avaient pu, depuis plus de 20 ans, et en raison de leurs prétentions exagérées, louer l'unique mais vaste étage qui surplombe leur magasin. Aussi se trouvaient-elles abondamment isolées, absolument dans ce grand corps de bâtiment. Le matin du 29 juillet 1891, étonnées de ne point voir leur boutique ouverte à 8 heures, alors qu'elles étaient d'ordinaire très matinales, un voisin prévient la police. On frappe à plusieurs reprises, pas de réponse. Un serrurier est requis. On pénètre immédiatement à droite la chambre des victimes. Un affreux désordre y règne. Les meubles ont été éventrés à l'aide d'une bêche. Robes, linge, matelas gisent pêle-mêle sur le plancher. On appelle les dames Marcon. Personne. On poursuit les recherches, on descend visiter les caves, et tout à coup un agent qui est entré dans le magasin pour y prendre une bougie recule épouvanté. Le long d'une vitrine, tête contre tête, sont étendus les cadavres des deux femmes. La mère, couchée sur le côté droit, le crâne en bouillie. La fille, couchée sur le dos, à la main gauche repliée sur le cœur. Son visage exprime l'épouvante. Dans sa main droite crispée, elle tient un paquet de vis. Et sur un petit poêle, tout à côté, un lourd marteau de river, l'instrument du crime. Il n'est pas difficile de reconstituer le drame. Les dames Marcon viennent de former leur victime, vitrine. Déjà, elles appliquent les volets à la porte d'entrée lorsque pénètre un homme à l'allure pressée. Il a besoin de marchandises, il examine, il discute. Mademoiselle Marcon cherche dans les tiroirs et la mère est debout près d'elle. Soudain, l'assassin saisit son marteau et en assène un coup terrible sur la tête de Madame Marcon qui tombe comme une masse. Effrayée par le bruit de la chute, Mademoiselle Marcon se retourne, elle tombe frappée à son tour. Le crime commis, l'assassin et ses complices fouillent la maison de fond en comble et au milieu de la nuit repartent sans avoir été inquiétés. Le lendemain matin, dans la foule énorme qui s'est massée devant la maison, un seul nom est prononcé, celui de Ravachol. Mais il ne rencontre qu'un seul faible écho. Un journal ne vient-il pas de raconter avec force détail l'odyssée du meurtrier de l'ermite qui a passé la frontière et qu'on a vu à Barcelone en compagnie de Charère, un autre compagnon stéphanois condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité comme chef d'une bande de faux-monnayeurs. C'était bien Ravachol, cependant, l'auteur du double assassinat qui provoquait une aussi extraordinaire émotion. L'accusation en exprime du moins la conviction. Tandis qu'on le faisait voyager en Espagne, il était tranquillement caché chez Béala, à Saint-Étienne, où, grâce à son habileté dans l'art du déguisement, il devait dépister la police jusqu'à l'époque de son départ pour Paris. Béala l'avait aidé dans son horrible besogne, tandis que sa maîtresse, la fille Mariette Soubert, faisait le guet. Les déclarations de Chaumartin sont formelles et précises sur ce point. L'ex-ami de Ravachol affirme énergiquement tenir l'aveu de Béala lui-même. La violation de la sépulture de la baronne Douairière de Rochetaillé au cimetière Saint-Jean-Bonnefonds, près de Saint-Étienne, avait précédé de quelques semaines le crime de Champs. Le vendredi 15 mai, vers 7 heures du matin, L'intendant du baron Vital de la Roche-Taillée pénétrait dans la partie du cimetière réservée au monument de la baronne Louairière lorsqu'il aperçut le caveau ouvert. À l'intérieur, un spectacle terrifiant l'attendait. Le cercueil de Madame de Roche-Taillée, enlevé de la place où il reposait, était entrouvert sur les dalles. La pierre tombale qui le recouvrait, brisée à coups de maillet, jonchait le sol de ses débris. Ça et là, des coussins, des linges, des couronnes, le tout dans un indicible désordre. Le vol avait évidemment été le vol de le mobile de cette odieuse profanation. Le bruit avait couru dans le public, à tort d'ailleurs, que la baronne avait été ensevelie avec ses bijoux. Un misérable n'avait pas craint de violer la sépulture, d'ouvrir le cercueil et de dépouiller le corps avec une audace qui dépasse l'imagination. Il n'était pas seul, d'ailleurs. L'aide de complice avait été nécessaire pour soulever la pierre tombale, autour de laquelle se voyaient de nombreuses empreintes de pas. Et c'est à la suite de son arrestation à Paris, après les explosions de la rue de Clichy et du boulevard Saint-Germain, que l'opinion publique à Saint-Étienne porta ses soupçons sur Ravachol, comme elle venait, avec la même spontanéité, de l'accuser du double assassinat de la rue de Roanne. L'opinion publique ne s'était pas trompée. On sait en effet que le misérable a fait à ce sujet des aveux complets. « Les riches, a déclaré cyniquement Ravachol, ont pas le droit d'emporter leurs bijoux dans la tombe. » Quant au double crime de la varicelle, il remonte à 1886. Sur la route de Saint-Chamond à Saint-Étienne, habitait avec sa vieille bonne un octogénaire, Jean-Baptiste Rivelier, dit le petit bon Dieu, un surnom qui lui venait de sa qualité de grand prêtre de la secte des Béguins, assez nombreux dans la région. Sa maison, une immense et vaste auberge, était un vrai Capharnaüm, où le vieillard, marchant le bric-à-brac, avait empilé, pêle-mêle, une colossale quantité de vieux meubles, de colonnes, de pendules, de fourneaux, etc., etc., qu'il achetait à n'importe quel prix dans toutes les ventes à 50 km à la ronde. Une nuit de mars, un roulier trouvait sur la route le cadavre de la vieille bonne en chemise, le crâne fracassé, l'épaule horriblement tailladée. Dans la chambre du père Rivelier, au pied du lit, gisait, au milieu d'une mare de sang, l'infortuné vieillard. Au moment où l'assassin avait pénétré dans sa chambre, le petit bon Dieu s'était éveillé. Il avait essayé de lutter contre son meurtrier. Le bruit avait éveillé à son tour la vieille servante couchée dans un autre angle de la pièce. Terrorisée, elle s'était levée et avait gagné la porte, fuyant à toutes jambes. L'assassin l'avait poursuivie jusque sur la route et après une course de plus de 300 mètres, il l'avait rejointe et étendue morte d'un terrible coup de hache. Puis il s'était retourné dans la maison, fracturé les meubles. Quel était l'assassin? Les présomptions les plus graves ont pesé sur Ravachol. Ces présomptions étaient basées sur cette confidence que la femme brûlière, sa complice dans le vol de chambre, avait faite à une de ses co-détenues. « C'est Königstein qui a fait le coup du petit bon Dieu. » Mais, après 6 ans écoulés, il n'a pas été possible d'étayer sur des preuves formelles cette accusation. Dans l'opinion publique, Ravachol n'en est pas moins l'assassin de la varicelle, comme il est l'assassin des dames Marcon et du frère Brunel. Tel est le sinistre bilan du bandit que les anarchistes de Saint-Étienne semblent aujourd'hui avoir abandonné à son sort. Le jour où Ravachol, escomptant l'intervention des compagnons et s'attendant peut-être à un nouvel acte d'intimidation comme l'explosion du restaurant Véry,
descendit à la gare de Saint-Étienne où il avait été transféré en criant « Vive la révolution sociale !» Son cri resta sans écho. Depuis, les jours et les semaines se sont écoulés et les anarchistes de la Loire n'ont rien tenté pour le compagnon emprisonné. Tout porte à croire que les débats qui vont s'ouvrir dans la petite ville de Montbrison, semblables aux villes mortes de la Belgique, où l'herbe pousse entre les pavés, ne donneront lieu à aucune manifestation tumultueuse. Les débats seront dirigés par Maître Darigan, grand conseiller à la cour de Lyon. Maître Lagasse plaidera de nouveau pour Ravachol. Maître Eugène Crémieux et Henri Robert pour Béala et Mariette Soubert, retenus comme complices du double assassinat des dames Marcon. Montbrison, 21 juin. Le procès Ravachol n'est pas parvenu à jeter quelque animation et quelque gaieté dans cette morne petite ville de Montbrison, l'ancien chef-lieu de la Loire, qui porte le deuil éternel de sa royauté perdue. Quelques journalistes et quelques témoins désœuvrés errent mélancoliquement à travers les rues désolées, mais d'anarchistes point. Cependant, les indigènes soutiennent que la ville présente un aspect inaccoutumé et le maire a pris des précautions extraordinaires. Le jardin public est fermé et le soir, des agents de la sûreté improvisée regardent sous le nez les passants avec une inexpérience et un zèle qui font plaisir à voir. La salle des assises occupe l'ancienne église d'un couvent de femmes fermée à la Révolution. Elle est d'une naïveté touchante avec ses peintures à la détrempe, son Christ qui porte la barbe en collier et son plafond de bois percé de 5 ou 6 trous par où passent encore les cordes des anciennes cloches muettes depuis tantôt 100 ans. À 9 heures, monsieur le conseiller Darigan déclare l'audience ouverte. Ravachol est introduit et après lui Béala, puis Mariette Soubert. L'assassin de l'ermite de Chambles fait son entrée au banc des accusés avec une aisance et une désinvolture étonnantes. Il sourit en montrant les dents et à plusieurs reprises il fait un signe familier à son frère qui est dans la salle à côté du père de Béala. Son long séjour dans la prison l'a singulièrement émacié. Maintenant les traits sont devenus presque fins. Le visage d'une pâleur quasi distinguée, la moustache très effilée, lissée avec une coquetterie et une raie irréprochable sépare les cheveux. Ravachol n'a pas renoncé à ses prétentions. Il est bien toujours le coparchique de l'archarchie. De son œil étrange, allumé, perçant, dont il est réellement difficile de soutenir l'éclat, il explore avec persistance tous les coins de la salle. Mais les compagnons ne sont pas là, et le piquet de soldats qui occupe le fond d'audience, la baïonnette au canon, compose la grande majorité du public. Un incident marque le tirage du jury. On entend tout à coup un cri épouvantable. C'est un juré qui, à l'appel de son nom, tombe en proie à une attaque d'épilepsie. Deux de ses collègues l'emportent au milieu de l'émotion générale, et Monsieur le Président Darigan est forcé de recommencer le tirage. Après la formule du serment, à laquelle plusieurs des jurés répondent avec une rare énergie, « Je le jure !», la greffière donne lecture des divers actes d'accusation dressés contre Ravachol. Premièrement, pour l'assassinat de l'ermite de Chambles. Deuxièmement, pour le double assassinat des dames Marcon de Saint-Étienne. Troisièmement, pour le double assassinat de la rue Varizelle. Quatrièmement, pour la profanation de la sépulture de Madame la baronne de Rochetaillée. Cinquièmement, enfin, pour un vol qualifié suivi d'incendie. Béala et Mariette Soubert ne sont impliqués que dans l'assassinat des dames Marcon. Tous deux auraient fait le guet pendant que Ravachol frappait les deux femmes. Pour le double crime de la Varizelle, comme pour le double assassinat des dames Marcon,
Le principal témoin accusateur n'est autre que Chaumartin, l'ex-co-accusé de Ravachol pendant le procès de Paris. Mais s'il avoue le meurtre de l'ermite, Ravachol, en ce qui concerne les quatre autres crimes, nie avec la dernière énergie. À l'appel des témoins, Chaumartin ne répond pas à l'appel de son nom. Il viendra demain. Certaines précautions sont prises pour sa sécurité. Interrogatoire de Ravachol. Votre père, Auguste Königshein, d'origine hollandaise, était la mineure au fort Lisieux. Mais vous portez habituellement le nom de Ravachol, qui est celui de votre mère. Vous exerciez à Saint-Étienne l'état d'ouvrier teinturier. Vous avez été condamné aux travaux forcés à perpétuité pour explosion par la cour d'assises de la Seine. Vous avez reconnu, d'autre part, que vous étiez un faux monnayeur et un contrebandier de profession. Enfin, on vous présente comme vindicatif, sournois. Ravachol, en souriant, « Sournois? Je crois avoir donné la preuve que je ne suis pas. Si j'étais sournois, je ne serais pas ici. Vous portiez constamment sur vous un revolver. Vous êtes énergique et fort, mais les renseignements donnés par vos patrons vous représentent comme un ouvrier très ordinaire. Depuis le mois d'octobre 1891, vous aviez quitté définitivement l'atelier pour fréquenter les contrebandiers et les repris de justice. Mais c'est pas moi qui ai abandonné le travail, c'est le travail qui m'a abandonné. Pour ce qui est de la contrebande, vous savez, tout le monde en fait. Vous étiez très redouté. Au contraire, j'ai toujours soutenu le faible contre le fort. Monsieur le Président, les faibles ont succombé sous vos coups. Vous battiez votre propre mère. Vous la menaciez de mort. Nous nous disputions à cause d'une maîtresse. Et nous savons ce que cela coûte. Puis vous aimiez la toilette, le confort. La contrebande ne rendant guère, vous avez voulu faire un coup d'éclat pour vous constituer une petite fortune. L'assassinat de l'ermite de Chambles. Vous connaissiez l'ermite de Chambles, frère Jacques Rummel, qui avait amassé dans sa solitude le premier quart de siècle d'économie. Vous saviez tout cela. Vous l'avez reconnu avec votre franchise habituelle. Vous avez alors songé à assassiner frère Jacques Brunel. C'est la faim qui m'a poussé là. Dirais-je, je voulais pas le tuer, mais seulement le voler. Vous vouliez vous enrichir. Ben, je peux garder un sou de son argent. Le 18 juin 1891, vous êtes parti de Firminy avec un billet d'aller-retour pour la station de Saint-Victor, qui dessert l'ermitage de Notre-Dame-de-Grâce. Et dans la journée, plusieurs témoins vous aperçoivent gravissant la montagne. À quelle heure avez-vous assassiné l'ermite? Vers midi, j'ai escaladé le mur de son jardin, fracturé la porte de sa cave et pénétré par là dans la maison. Et puis, ce ne sont pas des choses bien agréables à raconter. L'ermite était au lit, je lui ai présenté un billet de 50 francs en lui disant de prendre 20 francs pour dire des messes. Je voulais qu'il me fît voir son argent. « Oh, mais je n'ai pas de quoi changer, » me répondit l'ermite. Et il fit mine de se lever. C'est à ce moment-là que je lui ai comprimé la bouche, cherchant à l'étouffer, mais voyant que la mort ne venait pas assez vite, je lui ai enfoncé mon mouchoir dans la bouche. Puis je suis monté sur son lit, je lui ai resserré la poitrine avec mon genou. Un instant d'après, il cessa de respirer. Sensation. Ravachol fait ce récit d'un air souriant, détaché, comme s'il n'attachait aucune importance à cette peccadille. Il vous était facile de voler ce vieillard de 90 ans sans l'assassiner. Ben, j'étais décidé à supprimer tous les obstacles pour me procurer de l'argent. L'ermite était un obstacle, je l'ai supprimé. Lui mort, j'ai ouvert les meubles avec une bêche et j'ai tout fouillé. Il cachait ses économies dans de vieux pots, dans des casseroles, dans des souliers hors d'usage. Il y avait à peu près 25 à 30 kilos d'or et d'argent, dont j'ai fait un paquet, laissant au moins 1000 francs sur le sol en gros sous. J'aurais bien voulu pouvoir faire un autre travail. Cela a été assez désagréable pour moi. Vous êtes descendu dîner au village de Chambles. Vous vous êtes fait servir un repas copieux, terminé par un verre de punch. Puis vous êtes retourné à l'ermitage où vous avez passé la nuit à classer les pièces d'or et les sous. Vous aviez apporté une bouteille de vin pour vous rafraîchir pendant ce travail et vous éclaircissiez avec un morceau de cierge. Ravachol reprit le lendemain matin le train pour Saint-Étienne, porteur de deux sacs qui semblaient très lourds, mais il n'avait pas réussi à emporter encore tout son butin. Le jour suivant, il revint à Chambles, accompagné de la femme roulière, sa maîtresse. « Vous avez chanté pendant toute la durée du voyage. J'avais pris une voiture pour remonter de Saint-Victor à Chambles, en racontant au cocher que nous faisions un voyage de plaisir. Voilà pourquoi nous chantions, mais ma joie était simulée. Le cocher n'est cependant pas bien rassuré et il vous a quitté en route. » Vous avez dû monter seul avec votre maîtresse, portant une valise jaune et une sacoche. Quel était donc le but de cette excursion? Je retournais à l'ermitage pour m'assurer que tout était tranquille et remporter ce qui restait. Vous êtes resté à l'ermitage de Chambles jusqu'à 2 heures du matin, puis vous êtes rentré à Saint-Étienne en voiture. N'êtes-vous pas remonté une dernière fois à Chambles? « Oui, certainement. Je craignais que le petit cocher qui nous avait conduits ne nous dénonçât. J'avais un poignard et j'étais décidé à le supprimer. Puis j'ai réfléchi que ce meurtrier n'était pas une nécessité absolue. Et j'y ai renoncé, car j'ai toujours eu de la conscience. Mais vous l'auriez impitoyablement tué, ce jeune cocher, si vous l'aviez jugé utile. « Mais certainement. » C'est comme cela maintenant dans la vie du monde. Monsieur le Président, heureusement, il y a encore beaucoup de braves ouvriers qui ne vous ressemblent pas. Monsieur le Président rappelle avec quelle audace Ravachol, arrêté peu de choses après, réussit, tout enchaîné qu'il fut, à s'échapper des mains des 5 personnes qui le conduisaient à la prison. On sait quel usage il fit de la liberté. L'assassin essaye ici de se lancer dans ses théories favorites. Il commence à déblatérer contre la mauvaise organisation de la société, qui oblige les pauvres à voler. Il s'élève contre la déplorable situation des travailleurs. « Ne parlez pas pour les travailleurs !» s'écrie le président. « Parlez pour les assassins !»« Mais votre justice est une justice bourgeoise !»« La justice bourgeoise !» Vous n'avez éprouvé jusqu'ici que sa longanimité. Vive sensation. Ravachol évalue lui-même à 35 000 francs le chiffre des économies volées à l'ermite de Chambles. Sur cette somme, il emporta environ 8 000 francs en quittant Saint-Étienne après son évasion. Une dizaine de mille francs furent retrouvés dans la cave de la femme roulière, qui de ce chef a été condamné pour recel à 7 ans de travaux forcés. Quelques jours après cette évasion de Ravachol, un pêcheur retiré du Rhône aux environs de Lyon, un chapeau rond et une veste d'ouvrier, renfermant l'écrit suivant, « Camarades, ne voulant pas servir de jouet à la justice bourgeoise, et là devoir inquiéter de braves compagnons à cause de moi, je prends le parti d'en finir avec la vie. Mon seul chagrin d'avoir pu mettre en lieu sûr l'argent de l'ermite pour que d'autres s'en puissent servir dans l'intérêt de la cause. Signé Ravachol. » Monsieur le Président demande à l'accusé dans quel but il a écrit cette lettre. « C'était pour dépister la police en faisant croire à mon suicide. Mais que comptiez-vous faire? Vous l'avez déclaré vous-même à l'instruction. « J'étais décidé, avez-vous dit, à me procurer de l'argent par tous les moyens possibles, excepté par le travail. » Et vous écriviez à votre maîtresse, « Il y a des gens qui tuent des milliers d'hommes pour s'enrichir. Moi, j'en ai tué un seul. Si on ne me prenait pas, nous irons vivre à Dijon. Comme nous serions heureux et tranquilles. C'était donc pas pour la cause, comme vous l'écriviez mensongèrement, que vous avez volé l'ermite de Chamblanc. C'était pour vous enrichir. Oh, puisque la société ne me permettait pas de gagner ma vie en travaillant. La société n'a rien à attendre d'un homme tel que vous. C'est moi qui avais le droit de tout attendre d'elle. Me rien donner. Après avoir interrogé sommairement Ravachol sur un vol qualifié commis dans la maison de campagne de M. Loire aux environs de Saint-Étienne et qui fut suivi de l'incendie de l'habitation, M. le Président arrive au double crime de la varicelle. Le Président. Il y a 6 ans, dans la nuit du 29 au 30 mars 1886, un vieillard de 80 ans nommé Rivollier et sa vieille servante Louise Four furent assassinés dans leur maison de la Varizelle, près d'Isieux. Le vieillard avait dû être frappé par un instrument tranchant très lourd, comme une hache. Sa servante, poursuivie jusque sur la route par l'assassin, avait succombé à 10 blessures. Reconnaissez-vous être l'auteur de ce double crime ? Bon, vous ne l'avez jamais connu par les journaux. Mais vous avez cependant raconté à Chaumartin que c'était vous l'assassin, mais que les cris de la domestique vous avaient forcé de fuir, sans prendre le temps de voler. Mais Chaumartin ment. J'ai pu lui faire le récit du crime, mais je n'en suis jamais reconnu l'auteur. Chaumartin m'aura mal compris. La maîtresse de votre ami Foichard a dit un jour que c'était vous qui aviez tué le petit bon Dieu, surnom du père Rivollier. Mais c'est trompé absolument. Et quel intérêt avait-elle à vous accuser plutôt qu'un autre ? Me l'explique pas. Cette femme donna un détail bien caractéristique. Le chien vous aurait empêché de voler. Il résulte en effet de l'instruction que le chien du père Rivollier avait poussé des aboiements pitoyables au moment où la domestique, atteinte par l'assassin, avait poussé un cri de terreur. Voilà des coïncidences bien singulières. Enfin, votre maîtresse, la femme Rullière, a déclaré à des co-détenus de la prison de Montbrison que vous étiez le coupable. Vous habitiez Saint-Chamond, tout près de la Varizelle, à l'époque de l'assassinat, et vous étiez sans travail. Votre patron venait de vous renvoyer. Mais je suis absolument innocent. La justice, ne possédant pas d'autres indices sur le crime de la Varizelle, Monsieur le Président passa à l'assassinat des dames Marcon. L'assassinat des dames Marcon, Monsieur le Président. Un mois après l'assassinat de l'ermite de Chambles, le 27 juillet 1891, les dames Marcon, quincaillères, étaient assassinées dans leur magasin de la rue de Roanne à Saint-Étienne. Où étiez-vous ce jour-là ? Je ne le dirai pas. Je ne veux pas compromettre les personnes qui me donnent l'hospitalité. Cependant, quand vous êtes arrivé à Chaux-Saint-Denis à la fin de juillet, vous avez raconté à Chaumartin que vous veniez de Saint-Étienne. Et ce n'est pas tout, vous lui avez dit, et il viendra en déposer ici, que c'était vous qui aviez assassiné les dames Marcon. Monsieur Chaumartin a menti. Jamais je lui ai fait pareille confidence. Il y a cependant des détails que Chaumartin raconte et qu'il n'a pas pu inventer. Vous seriez entré avec un complice chez les dames Marcon au moment où elles fermaient boutique. Vous auriez marchandé un marteau et, pendant que la plus âgée allait vous chercher le monnaie d'un billet de 50 francs que vous lui aviez remis, vous avez abattu la plus jeune, raide morte d'un coup de marteau sur la tête. Puis vous auriez appelé la mère en lui disant que sa fille venait de s'évanouir et vous l'auriez frappé mortellement à son tour. Or, ces détails concordent si exactement avec la scène de l'assassinat qu'ils ne peuvent avoir été fournis que par un témoin du meurtre. Un voisin a entendu l'homme qui était entré chez les dames Marcon marchander un morceau. Il y a plus, on vous a vu devant le magasin. Vous avez été reconnu. Mais c'était impossible, je n'étais pas à Saint-Étienne à cette époque.
Telles sont également les seules preuves que le ministère public ait pu recueillir sur l'assassinat des dames Marcon. Arrivons au dernier chef d'accusation. La violation de sépulture de Madame de La Roche-Taillée. Dans la nuit du 15 au 16 mai 1891, vous avez escaladé le mur du cimetière de Saint-Jean-Bonnefonds, décellé la pierre tombale de Madame la Marquise de Roche-Taillée, fracturé le cercueil, arraché au cadavre une petite croix et un médaillon. Reconnaissez-vous votre œuvre ? Ravachol, impassible. J'ai été forcé par la nécessité. Mais c'est là un acte odieux et répugnant. Vous croyez arracher au cadavre les bijoux avec lesquels, disait-on, Madame de Roche-Taillée avait été ensevelie. Mais vous avez été trompé dans cette attente. Oh, il faut du courage pour accomplir un acte semblable, c'est certain, mais elle, je mourrais de faim. Oh, vous avez des appétits très larges. Ce que vous appelez mourir de faim, c'est ne pouvoir les satisfaire. Et cette nuit effroyable du cimetière de Saint-Jean-Bonnefonds ne vous impressionne pas. Vous n'éprouvez pas de remords, de regrets. Ravachol, indifférent. Moi, je me souviens que c'était répugnant, voilà tout. Cet homme est d'une dureté et d'un cynisme extraordinaire. L'interrogatoire de Ravachol est terminé. Mais l'accusé, avant de s'asseoir, demande à faire une déclaration. Il déplie lentement un papier et lit ces quelques lignes d'une voix sourde. « J'ai fait le sacrifice de ma personne. Si je lutte encore, c'est pour l'idée anarchiste. Je sais que je serai vengé. » Les interrogatoires de Béla et de Marielle Soubert ne présentent qu'un médiocre intérêt. Béala, un assez joli garçon, correctement mis à la physionomie douce et dont les antécédents ne sont pas mauvais, est inculpé d'avoir fait le guet pendant que Ravachol assassinait les dames Marcon. Non seulement il nie formellement, mais encore il affirme n'avoir jamais connu Ravachol. Or, c'est lui qui, de Saint-Étienne, a écrit à Chaumartin pour le supplier de donner asile à Ravachol à Saint-Denis. Et quand à son tour il est parti pour Paris, on le rencontre avec Ravachol à la réunion de la fameuse chambre syndicale des hommes de peine. N'avez-vous pas signalé aux anarchistes de Saint-Étienne Chaumartin comme un mouchard en ajoutant cette phrase menaçante « J'aime mieux être dans ma peau que dans la sienne. » Béala. Oui, c'est vrai, c'est moi à Paris. J'ai accepté toute ma responsabilité, tandis que Chaumartin s'est déchargé sur un enfant, le petit Simon, dit Biscuit, qu'il avait surexcité et qu'il a envoyé au bagne. Aucun indice quelconque n'existant en dehors des accusations de Chaumartin contre Béala, son interrogatoire est immédiatement clos. Quant à celui de sa maîtresse, Marielle Soubert, n'est pas plus pittoresque. Cette femme, un type de petite ouvrière point jolie, mais de la physionomie assez sympathique, était une bonne travailleuse et vivait paisiblement avec Béala. Elle aussi est accusée par Chaumartin d'avoir fait le guet devant la maison des dames Marcon, et malheureusement pour elle, un autre témoin l'a aperçue. « Ce témoin est bien précis, dit le président. Le témoin vous reconnaît à ce signalement qu'il vous manque une dent. Oh, suis-je la seule ? N'avez-vous pas donné asile à Ravachol après son évasion ? Jamais de la vie. Savez-vous si votre amant Béala n'a pas envoyé à Ravachol à Paris une partie de la somme volée à l'ermite de Chambles ? Environ 3 500 francs sur l'argent caché dans la cave de la femme Mulière. Jamais j'ai entendu parler de tout ça. Comme on le voit, les charges relevées contre Béala et sa maîtresse sont autant dire nulles et leur acquittement paraît certain. Les témoignages. C'est d'abord le gendarme qui a fait la première enquête après l'assassinat de l'ermite à Notre-Dame-de-Grâce. Un petit berger, qui avait servi de guide à l'assassin, lui donna un signalement si exact de Ravachol que la justice ne tarda pas un seul instant.
Une vieille femme qui apportait du pain et du lait à l'ermite raconte qu'elle a vainement frappé à la porte le jour du crime. Ravachol était encore là, occupé à trier l'argent. Et si cette femme était entrée, qu'auriez-vous fait? Demande le procureur de la République. Ravachol fait un geste qui veut dire à n'en pas douter, ma foi, j'aurais été forcé de la supprimer aussi. Suivent des témoins qui ont rencontré le meurtrier sur la route. Tout cela n'a point d'intérêt puisque Ravachol a avoué. Les autres dépositions relatives au crime de Chambles sont sans importance. À retenir seulement le témoignage des jeunes Rullières, fils de la maîtresse de Ravachol, qui déclarent que l'accusé était bon pour eux, mais qu'il fréquentait avec leur mère des gens très singuliers et rentrait parfois très tard avec des paquets. La vue de ces deux enfants provoque un vif mouvement d'émotion chez Ravachol. L'accusé porte alors son mouchoir à ses yeux et essuie quelques larmes. C'est la première fois que son impassibilité effrayante semble avoir été vaincue par un sentiment humain. À demain mercredi, la fin des témoignages, les plaidoiries et le verdict. Montbrison, 22 juin. Le clou de l'audience d'aujourd'hui, c'est la déposition de Chaumartin. Cet anarchiste repenti, cet ancien compagnon de Ravachol sur le banc de la cour d'assises de la Seine, est, on le sait, à peu près le seul témoin de l'accusation dans les assassinats des dames Marcon et du petit Bondieu de la Varizelle. Aussi le ministère public entoure-t-il Chaumartin de toute sa sollicitude. Le précieux collaborateur de l'accusation est logé et traité à la caserne de gendarmerie, d'où il ne sortira que pour se rendre directement à l'audience. Il paraît que Chaumartin a reçu des compagnons de nombreuses lettres dans lesquelles on le menace de lui faire son affaire. Aussi les anarchistes lyonnais ou stéphanois, une douzaine peut-être, qui se sont rendus à Montbrison pour le procès, sont-ils étroitement surveillés. En attendant la comparution de Chaumartin, expédions les témoins du double crime de la Varizelle. Il faut réveiller leurs souvenirs et ce n'est pas chose facile, car l'assassinat du petit Bondieu et de Françoise Faure remonte à plus de 6 ans. Au surplus, personne n'a aperçu les assassins. Déposition de Chaumartin. Un vif mouvement de curiosité signale l'entrée de Chaumartin. C'est un homme d'une quarantaine d'années, court, trapu, enluminé, avec une moustache énorme, qui donne tout à fait l'impression d'un placier en vin. L'ex-anarchiste de Saint-Denis est aujourd'hui complètement embourgeoisé, gras, luisant, épanoui, drapé dans une redingote à la propriétaire. Il dépose d'une voix doucereuse en évitant de regarder son ancien ami. « Il est bien regrettable pour moi, commence-t-il, pour moi et pour le parti dans lequel les accusés ont voulu s'abriter, d'avoir connu les hommes qui sont ici. Monsieur le Président se hâte d'interrompre cet exorde politique et ramène Chaumartin à la question. « Comment avez-vous eu connaissance du double assassinat de la Varizelle ?»« C'est Ravachol lui-même qui m'a avoué à Saint-Denis avoir assassiné le petit Bondieu et sa servante. Il avait été réduit à la nécessité d'un crime, ajoutait-il, pour faire manger sa mère. Il avait crocheté la porte du père du geôlier et l'avait frappé dans son lit. La vieille servante vint, réveillée au bruit, et prit la fuite en criant. Mais Ravachol, la poursuivant sur la route, la rejoignit et la battit morte à ses pieds. « Êtes-vous bien sûr que Ravachol vous ait fait cette confidence ?»« Absolument certain. Je me souviens même de l'époque. C'était au commencement du mois d'août, un dimanche. Ravachol, recherché à Saint-Étienne, était venu se réfugier à Saint-Denis et passait une partie de son temps chez moi. Je le connais, il a le cœur trop généreux pour me donner un démenti. » Ravachol ne répond que par un sourire de dédain. Monsieur le Président insiste pour qu'il s'explique. Ravachol, très calme. « Je proteste absolument. J'ai avoué à Chaumartin le crime de Chambles, mais je lui ai parlé du crime de la Varizelle, que d'après les journaux.
Et à quelle époque les journaux ont-ils donc parlé du crime de la Varizelle?
Oh, 1886.
Il est bien extraordinaire que vous ayez conservé aussi précis le souvenir d'articles parus il y a 6 ans.
Ben, les journaux de 92, à propos de mon évasion, ont repris leur ancien récit, et insinuant que je pourrais bien être l'auteur du crime de la Varizelle.
Mais quel intérêt voulez-vous qu'ait Chaumartin à porter contre vous une accusation qui peut lui attirer des représailles?
Mais je ne crois pas de mauvaise foi, seulement il aura mal interprété mes paroles.
Votre explication est bien embarrassée. J'ajoute que vous habitiez Saint-Chamond, tout près de la Varizelle, au moment du crime, et que vous étiez sans travail. Maître Lagasse, avec quel instrument Ravachol aurait-il frappé ses victimes?
Chaumartin, je vois bien que c'est avec un couteau.
Maître Lagasse. Eh bien, il est établi que le père Rivolier et sa servante ont été tués à coups de hache.
Chaumartin. Mais je n'ai aucune animosité contre Ravachol. Il était très humain. Il apprenait à lire mes enfants.
Maître Lagasse. N'a-t-il pas distribué ce qui lui restait de l'argent de l'ermite de Chambles aux ouvriers de Paris?
Je le crois, oui. Il était très généreux.
Monsieur le procureur de la République, Ravachol est resté chez vous du mois d'août 91 au mois de mars 1892. A-t-il travaillé?
Jamais.
La déposition de Chaumartin est terminée en ce qui concerne le crime de la Varizelle. Les gendarmes le reconduisent avec sollicitude. Il reviendra pour l'affaire des dames Marcoux. Voici maintenant la femme Rulière, l'ancienne maîtresse de Ravachol, une petite brune très sèche, le verbe haut, l'allure insolente. Elle déclare que jamais son ancien amant ne lui a fait aucune confidence sur le crime de la Varizelle, et se campe devant la barre, la mine boudeuse, enfin bien décidée à ne rien dire. Vous avez cependant fait part des confidences de Ravachol à plusieurs des co-détenus.
Ravachol. Ces femmes mentent effrontément. Si vous vouliez ce que c'est, ces femmes-là.
Monsieur le Président, ce n'est pas à vous d'incriminer un témoin quelconque. Vous subissez 7 ans de travaux forcés pour recel de l'argent de l'ermite de Chambles. Je vous rappelle à la pudeur. N'avez-vous pas dit que vous aviez honte d'avoir commis un pareil monstre?
J'ai dit cela pour faire plaisir aux policiers, mais je l'aime encore. J'ai menti contre mon cœur.
Ravachol remercie la femme Rulière par un sourire. Le président. N'avez-vous pas menacé une des femmes qui déclarait avoir reçu de vos confidences si elle les répétait devant la justice?
Eh bien, ma petite, lui avez-vous dit, gare aux anarchistes.
La femme Rulière d'un ton revêche.
C'est vrai, oui, je lui ai dit ça.
Monsieur le président fait emmener la femme Rulière par les gendarmes. Après elle, 2 ou 3 femmes, ses anciennes compagnes de la prison de Montbrison, qui ont reçu de la femme Rulière des confidences sur le crime de la Varizelle. La maîtresse de Ravachol prétendait tenir elle-même d'une cousine de son amant l'aveu de sa culpabilité. Les témoignages relatifs au crime de la Varizelle sont épuisés. Mais n'ont pas apporté une grande lumière, reconnaissons-le, et passons à l'assassinat des dames Marcon. Monsieur le Président fait passer sous les yeux des jurés le marteau qui a servi à assommer les 2 femmes et auquel adhèrent encore quelques cheveux ensanglantés. Rentrée de Chaumartin. Ecce iterum, Chaumartin. Il va déposer maintenant sur l'assassinat des dames Marcon.
C'est Béala, déclare-t-il, qui m'a raconté cet assassinat. D'après son récit, Ravachol était entré chez les dames Marcon au moment où elles achevaient de fermer leur devanture. Il marchanda divers objets et il abattit la mère, assommée avec un marteau qu'il avait pris en main pendant qu'elle lui présentait d'autres échantillons. La demoiselle Marcon était accourue au cri de sa mère. Ravachol se jeta sur elle et l'assomma à son tour. Et il s'apprêtait à ouvrir les tiroirs quand quelqu'un s'arrêta devant la porte. Ravachol sortit sur le seuil, le revolver au poing, très inquiet, et partit précipitamment, n'ayant eu le temps de prendre que 48 francs et oubliant Béala et Mariette Soubert qui faisaient le guet de l'autre côté de la maison. Mariette Soubert proteste par un violent coup de poing sur la barre. « Mais à quelle époque, Béala, vous aurait-il fait ce récit ?»« L'année dernière, à Saint-Étienne, où j'étais venu passer 5 ou 6 jours. Béala m'avait écrit sous le faux nom de Pierre Martin, pour me parler de faire passer la frontière à Ravachol. Monsieur le Président appelle à Chaumartin, qui n'a pas toujours accusé Béala de lui avoir fait ce récit. Il prétendait autrefois le tenir d'un autre ami de Ravachol, nommé Brossy, mort aujourd'hui. Chaumartin. Oh, Béala m'avait tellement supplié de lui sauver la mise en ne le nommant pas. Béala, très embarrassé. Mais tout ce qu'il raconte est absolument faux. Oui, j'ai pu lui parler de l'assassinat des dames Marcon, d'après la rumeur publique. J'ai pu lui dire qu'on accusait Ravachol et d'y avoir participé. Quant au reste, Chaumartin l'invente. Vous protestez bien mollement. Ravachol. Je crois que Chaumartin raconte tout ça pour essayer de se réhabiliter. À Chaumartin. N'avez-vous pas rapporté de Saint-Étienne à Paris une partie de l'argent de l'ermite de Chambles ? Chaumartin. Béala m'a repris et il m'a remis 3 000 francs. Je les ai donnés à Ravachol qui était parti se cacher à Saint-Denis sous le nom de Léon Léger. Mais c'est faux ! Jamais je n'ai vu 3 000 francs de ma vie. Et moi, je n'ai pas reçu un centime de Chaumartin. Et quel intérêt a-t-il à raconter tout cela ? L'intérêt, ben, c'est une chose bien délicate à vous dire. Les journaux ont raconté que Madame Chaumartin avait été ma maîtresse. Je tiens à protester énergiquement. Mais Chaumartin a pu le croire. De là sa haine. Chaumartin. Mais jamais je n'ai calomnié Ravachol. Je le tiens pour un cœur généreux. Et je l'estime encore. Vous avez l'estime persistante. À ce moment, Chaumartin est vivement apostrophé par Mariette Soubert. Menteur, infâme menteur, s'écrie-t-elle hors d'elle-même. Et le président menace de la faire sortir. Chaumartin. Mariette Soubert m'a même montré le matelas sur lequel couchait Ravachol, à qui Béala et elle avaient donné asile après son évasion. La fille Soubert, exaspérée. « Mais jamais je n'ai adressé une seule parole à cet homme-là. Peut-on dire des mensonges pareils ?»« Monsieur le procureur de la République à Chaumartin, Ravachol ne vous a-t-il pas tenu un propos sinistre ?»« Un jour, dans une conversation, Ravachol m'a dit « Il y en a 5 qui sont morts de ma main. J'espère bien arriver à la douzaine. » Ravachol. Faisait allusion à tous les crimes que me prêtaient les journaux. Ça va bien, lui dis-je. Si ça continue, j'arriverai bientôt à la douzaine. Maître Lagasse. Mais comment Chaumartin peut-il continuer son estime à Ravachol après avoir reçu le récit de tant d'assassinats? Et parce que, en dehors de ses crimes, j'ai reconnu en lui un cœur généreux. Les seules autres dépositions à retenir en ce qui concerne l'assassinat des dames Marcon sont celles des petits écoliers qui, passant devant la maison à l'heure du crime, ont aperçu un homme brun, assez grand, coiffé d'un grand chapeau, rôdant autour du magasin. Ravachol se lève. Le jeune Bray ne le reconnaît pas bien. Ravachol ne porte que la moustache, et lui a semblé que l'individu qu'il a vu portait la barbe. Il lui paraît cependant que c'est la même taille et la même voix. D'autre part, on sait avec quelle habileté Ravachol savait se grimer et se déguiser. Somme toute, la déposition de cet enfant est absolument indécise. Le jeune Scherer a aperçu 3 hommes, parmi lesquels il croit reconnaître Béala. le jeune Dumas, par gaminerie, s'amusait à taper sur les volets de Madame Marcon, lorsqu'un homme brun, portant moustache, est sorti précipitamment et s'est mis à sa poursuite. Reconnaissez-vous cet homme dans Gravachol? Je n'avais pas pu voir la figure, mais il avait la même taille. Mais je ne peux pas affirmer que c'était lui. Le jeune Ollier a aperçu une femme dans laquelle il ne reconnaît pas la fille Soubert. En revanche, il déclare formellement avoir entendu un homme demander aux dames Marcon si elles avaient à vendre des marteaux de cordonnier. Or, on retrouve précisément ce détail dans le récit que Ravachol a fait à son ex-ami Chaumartin. Enfin, le jeune clerc reconnaît Mariette Soubert à ceci, qu'il lui manquait une dent, et très formellement, il réitère son affirmation à l'audience. « Vous en avez un aplomb !» s'écrie Mariette Soubert. « À 10 heures du soir, vous avez vu qu'il me manquait une dent ? Mais d'ailleurs, vous avez dit chez le juge que la femme que vous aviez vue avait la taille plus mince que moi. » « Monsieur le Président, elle a pu grossir en 8 mois. » Malgré tout, ces confrontations ne paraissent pas bien concluantes. Il ne reste guère contre Ravachol, Baïla et Mariette Soubert que les dénonciations de Chaumartin. Le dernier témoin à charge est M. Chambaudu, régisseur de M. le baron de Rochetaillé, qui a constaté dans la matinée du 15 mai 91 au cimetière de Saint-Jean-le-Pont la violation du tombeau de la baronne Douairière. Le cercueil était ouvert, les coussins qui entouraient le corps jetés de côté et d'autre, les mains croisées de la mort avaient été écartées. Un Christ en ébène avait été arraché du cou et la camisole enlevée. Les profanateurs avaient brûlé des couronnes pour neutraliser les émanations cadavériques. Madame de Rochetaillé était enterrée depuis 6 mois. Henri Königstein, frère témoin à décharge, Marbrier à Givor, cité comme témoin à décharge, déclare que Ravachol lui a servi de père, qui lui a indiqué les meilleurs principes et a subvenu à tous ses besoins jusqu'au moment où il a été en âge de gagner sa vie. Ravachol nourrissait également sa mère et sa sœur. Il les conduisait même à la messe. Même témoignage de la sœur de Ravachol, qui déclare que son frère l'a retirée de la maison de charité où elle avait été placée après la mort de son père, en disant « Je veux que ma sœur mange le même pain que moi. » Mademoiselle Königstein étant devenue mère, Ravachol servit de père à son jeune neveu. À 5h30, monsieur le procureur de la République Cabane commence son réquisitoire. L'organe de l'accusation demande un verdict impitoyable contre Ravachol et une sentence presque aussi sévère contre Béala. Il s'en rapporte au jury en ce qui concerne Mariette Soubert. Ce réquisitoire, très sobre, très clair, fort bien composé, produit la plus vive impression sur l'auditoire. Toute l'audience de nuit est occupée par les plaidoiries. L'argument le plus remarquable de Maître Lagasse, défenseur de Ravachol, est l'inutilité de l'ermite de chambre, de ce vieillard thésauriseur, qui, sans faire de bien à personne, a amassé plus de 35 000 francs sous par sous. « Tel a été du moins, ajoute Maître Lagasse, le raisonnement de Ravachol, qui n'a vu aucun inconvénient à le supprimer. » Maître Henri Robert et Eugène Crémieux présente ensuite la défense de Béala et de Mariette Soubert. « Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ?» demande le président des Assises à Ravachol. L'accusé se lève et lit d'une voix très lente ce petit papier. « Je souhaite que les jurés, qui, hommes condamnant à mort, viennent de jeter dans le désespoir ceux qui m'ont conservé leur affection, portent sur leur conscience le souvenir de leur sentence, avec autant de légèreté et de courage que moi, j'apporterai ma tête sous le couteau du bourreau. » Signé Königstein, Ravachol. Ravachol essaye ensuite de développer ses théories anarchistes, Mais le président lui retire la parole en lui faisant observer que la cour d'assises n'est pas une réunion publique. Minuit. Les débats sont terminés. Il est près de 3 heures du matin quand les jurés rentrent en séance. Ravachol est déclaré coupable de l'assassinat de l'ermite de Chambles, mais non coupable des assassinats de la Varizelle et du meurtre des dames Marcon. Le verdict est muet sur les circonstances atténuantes. Béala et Mariette Soubert sont acquittés. Ce verdict laisse Ravachol complètement indifférent. Pendant la délibération de la cour sur l'application de la peine, il regarde curieusement dans la salle en souriant et en causant gaiement avec les gendarmes. La cour le condamne à la peine de mort et ordonne que l'exécution aura lieu sur une des places de Montbrison. « Je salue ma condamnation du cri de « Vive l'anarchie !» s'écrie Ravachol. « Vous n'avez plus le droit, réplique le président des Rigans, que de crier « Vive le vol et vive l'assassinat !» Il fait petit, tout petit jour, aucune manifestation dans la salle ni autour du palais. L'exécution. Ravachol refusa de se pourvoir en cassation et de signer son recours en grâce. Le 10 juillet, 18 jours après sa condamnation, il était exécuté. Voici le dramatique récit de l'exécution, d'après le compte-rendu d'un témoin oculaire, notre honorable confrère, M. Johannes Thomas, du mémorial de la Loire. Il était plus de 9 heures du soir quand fut définitivement fixé l'emplacement où devait s'élever la guillotine. Après le boulevard Saint-Jean et la place de la sous-préfecture, la place des prisons, nivelée et ratissée, et la veille par une équipe de cantonniers, devait être abandonnée à son tour. On se détermina pour un carrefour, sorte de cul-de-sac très exigu, formé par l'intersection des rues de la Providence, du Palais de Justice et des prisons. Debler n'était, paraît-il, pas très rassurant en arrivant à Montbrison, d'où les tâtonnements et les tergiversations. À 2h30 du matin, le lourd fourgon qui amène les bois de justice arrive sur le lieu de l'exécution. Il n'a pas fallu moins de 3 chevaux pour hisser en haut de la pente raide de la rue du Palais le véhicule qui roule avec un bruit d'enfer sur un pavé défectueux. On est à 60 mètres à peine de la cellule de Ravachol. Le bruit, mêlé aux cris, voire même aux vociférations de la foule, a dû certainement réveiller Ravachol. Erreur. Quand à 3h30, M. Cabanne, procureur de la République, ses deux substituts, M. Béguin et Pradier Frédéré, et M. Ferriol, juge d'instruction, pénètrent à la suite de M. Rau, directeur général des prisons, dans la cellule du condamné, celui-ci dort profondément. Il a lu assez tard dans la soirée, et vers 10h seulement, il s'est jeté tout habillé sur son lit. « Du courage !» lui dit M. Rau en lui annonçant que l'heure de l'expiation est arrivée. « Oh, du courage !» murmura Ravachol, qui s'est assis sur son lit. « C'est facile à dire. C'est bon, j'en aurai. » Et à partir de ce moment, il affecte de faire montre d'une parfaite insouciance. Mais il n'a pu dissimuler l'extrême surprise que lui cause la terrible nouvelle. Il avait fait son calcul et estimait qu'il aurait tout le mois de juillet à vivre. On veut l'aider à s'habiller, il refuse, et sans le secours de personne, il revêt les habits qu'il portait le jour de son arrestation. « Tiens, dit-il, mais on s'est fait coquet aujourd'hui, on dirait qu'on va au bal. » Au procureur de la République, qui, la toilette faite, lui demande s'il a un souhait à formuler, « Je voudrais parler à la foule, répondit-il, mais on m'en laissera pas le temps. »
et comme on lui demande s'il désire l'assistance d'un prêtre, « Je n'ai pas besoin de prêtre, fait-il. J'ai jamais eu de religion. C'est de la bêtise et bon pour les idiots. »
Et il ajoute, en s'adressant à l'aumônier de la prison, M. l'abbé Claret, qui veut lui présenter un crucifix,
« Je m'en fous de votre crucifix, vous ne me le montrez pas, je lui cracherai dessus. Votre religion est stupide. Vous êtes-vous de ceux qui entretiennent la superstition et veulent faire croire des choses qu'ils ne peuvent pas prouver ?»
Comme les aides le ligotent,
enfin, vous avez une grande habitude de votre métier, vous faites ça gentiment. »
Puis, presque aussitôt,
« Ah, vous ne répondez rien, c'est donc que vous avez conscience de la sale besogne que vous faites. »
Mis en goût par cette algarade, il propose aux personnes présentes de discuter avec elles, demande à boire et avale d'un trait un verre de vin coupé d'eau. Il s'est hissé dans le fourgon et le sinistre cortège se met en marche pour le lieu de l'exécution. Il est 4h05 quand le véhicule stoppe un peu en arrière de l'échafaud. Il fait grand jour. La foule, difficilement maintenue par une triple haie de fantassins et de gendarmes, est très bruyante. Prestement, Deblair ouvre les portes de la voiture, tandis que les deux aides font descendre le condamné. Ravachol est à 80 cm de la guillotine. Il est affreusement pâle. La chemise, largement tailladée, laisse à découvert la moitié de la poitrine. L'assassin de chambre n'a rien perdu de sa superbe. Le torse renversé, le sourire aux lèvres, et quel sourire! Il toise avec assurance la foule, les journalistes et le couperet. Il sautille et chantonne un ignoble couplet commencé dans la voiture.
« Pour être heureux, nom de Dieu, il faut tuer les propriétaires. Pour être heureux, nom de Dieu, il faut couper les curés en deux. Pour être heureux, nom de Dieu, il faut mettre le bon Dieu dans la merde. »
Ces écœurantes grossièretés sont lancées avec une mimique absolument diabolique et vont douloureusement au cœur de l'aumônier, qui a tenu à accompagner quand même le misérable à l'échafaud. C'est monstrueux. L'anarchiste fanfaron a fait place au voyou du plus crapuleux étage. Les aides s'emparent de lui et le poussent vers la guillotine.
« Laissez-moi, dit-il, je veux parler, citoyen !»
On le renverse sur la bascule. Il fait des efforts pour résister.
« Mais laissez-moi, j'ai... »
Déjà, la lunette a enclavé le cou. Ravachol se domine encore. Les aides ont peine à le maintenir. 3 secondes, 1 siècle s'écoulent avant que le corps soit bien en place.
« Vive le rêve !»
Königstein ne peut achever. Le couperet vient de tomber. La société est vengée. Il est exactement 4h09. La tête jetée dans le panier est hissé sur le fourgon, qui, escorté de gendarmes à cheval, se rend au grand trot au cimetière où a lieu l'inhumation. À 5h30, la guillotine était démontée et Deblair et ses aides reprenaient le chemin de la gare, tandis que la foule s'écoulait en commentant bruyamment l'attitude du supplicié.